Amen. La vie, je pense, Amen. Désolé, je vais partager mon écran et je voulais essayer de le mettre si c'est possible pour qu'on puisse nous exhorter. Je vois, est-ce que c'est ça?
On te voit bien, c'est bon.
C'est bon?
Un peu, pour voir ce qu'on dit
Vous
pas.
voyez bien?
Oui, t'es beau.
Est-ce que vous voyez l'écran?
Oui.
Oui, on voit ta
Okay.
présentation. C'est bon, c'est
Ok.
bon.
Ok, merci Seigneur. Voilà,
Prédication.
bonjour à tout le monde et j'espère que chacun de vous s'est réveillé dans la joie, rempli de l'esprit, parce que ce matin, vous savez que dans toutes les églises aujourd'hui, on célèbre la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, qui est aujourd'hui notre soutien, notre force, celui qui nous accompagne et qui guide son Église afin qu'elle puisse accomplir la mission que le Seigneur lui a consignée. Donc, pour entrer dans cette perspective de la méditation, j'aimerais que nous puissions imaginer dans notre vie au quotidien quelqu'un qui nous aime, notre ami qui est proche de nous, qui connaît tout de nous. Et chaque fois, nous avons partagé des bons moments ensemble. Nous avons aussi affronté des difficultés ensemble. Et un jour, il nous dit, ah, tu sais, je vais te quitter. Et lorsque je vais te quitter, tu ne pourras plus me revoir. Mais ne t'inquiète pas, tu me reverras, car je reviendrai. Quel sera vraiment notre sentiment au moment qu'il va nous dire qu'il nous quitte? Je pense que chacun de vous va imaginer le manque qui le vide qu'il y aura, le manque qui va se passer. Le fait de les bons moments, les bons temps passés ensemble va vous manquer. Et là, nous allons méditer ce texte de Jean 16, versets 5 à 15, qui va nous remettre dans un même état d'esprit des disciples lorsque Jésus va les parler de cette manière-là. Jean 16, versets 5 à 15. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vais-je. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Et là, nous allons nous arrêter là. Le Seigneur dit à ses disciples, annonce à ses disciples qu'il va partir. Et lorsqu'il les a annoncés qu'il va partir, la tristesse a envahi le cœur des disciples. Verset 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Et là, le Seigneur enfonce le clou en disant, pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Arrêtons un peu dans cette premier verset. Et essayons de comprendre réellement comment nous allons essayer de méditer cette parole. À partir du chapitre 12 de l'évangile de Jean, Jésus prépare la fin de son ministère terrestre. Il passe du temps avec ses disciples, il les exhorte particulièrement avec des avertissements, avec des mises en garde et surtout avec clarté, dans le but de préserver leur foi de la chute et de l'égarement dans le monde. Le chapitre 16 que nous venons de commencer à lire nous rappelle tout simplement le rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants, dans la vie premièrement des disciples qui vont faire face à la persécution, aux difficultés de la vie, de leur foi dans le monde et évidemment aussi son rôle dans le monde. Le Saint-Esprit va agir dans le monde. Il va convaincre le monde de son péché. Il va montrer ce qui est juste. Il va les avertir du jugement futur. Il va aussi les amener à placer leur confiance en Christ. Au niveau des croyants, le Saint-Esprit va les aider à s'attacher au Seigneur, à obéir à sa parole, à son enseignement, et surtout va les conduire dans toutes les décisions et dans tout ce qu'ils vont accomplir pour la poursuite du ministère de Jésus qu'il a commencé et qu'il va laisser avec eux. Donc, nous allons essayer de voir, premièrement, la venue du Saint-Esprit comme défenseur de notre foi. Deuxièmement, nous allons parler de l'inauguration du règne de Dieu. Et troisièmement, nous allons parler de vivre notre Pentecôte aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà évoqué, les derniers moments de Jésus avec les disciples, la mise en garde à ses disciples de ce qu'ils vont vivre après son départ et surtout le rôle du Saint-Esprit dans la vie des disciples. La venue du Saint-Esprit. Nous voyons que le Saint-Esprit, c'est bien de le dire, le répéter encore, est une personne divine, mais une personne divine toute puissance. Souvent, on parle du Saint-Esprit comme une puissance uniquement, alors que c'est vraiment le contraire. Le Saint-Esprit est une personne qui a une personnalité parce qu'il parle avec puissance, il convainc avec puissance, il illumine avec puissance, il rassure, il soutient, il encourage, il réprime et il n'accepte pas le mensonge. Par exemple, dans Actes 5, versets 3 à 5, nous voyons que Ananias et Saphira, Pierre les répond en disant qu'ils ont menti au Saint-Esprit. On peut lui mentir, mais il n'accepte pas le mensonge. Donc, nous voyons dans toute la parole de Dieu, la manière dont on qualifie le Saint-Esprit comme on définit le Saint-Esprit comme étant une personnalité divine. C'est pourquoi dans Colossiens 1, verset 11, il dit « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de la puissance glorieuse pour tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. » Si le Saint-Esprit est une personne qui a la puissance pour nous aider, nous fortifier dans des moments difficiles, dans des moments où nous pouvons rencontrer des épreuves, la persécution et même souvent des fardeaux lourds comme nous l'avons évoqué, comme Evelyne l'a évoqué tout à l'heure, des fardeaux, le Seigneur, par son esprit, en nous, va nous fortifier, nous donner courage, nous donner force afin de pouvoir supporter nos épreuves, nos difficultés, les fardeaux, peut-être que nous pouvons faire face. Le Saint-Esprit, le Seigneur promet aux disciples la nécessité de la venue du Saint-Esprit pour dire que sans le Saint-Esprit, les disciples ne pourront pas être des témoins de Jésus. Ils ne pourront pas rendre témoignage. Sans le Saint-Esprit, ils ne pourront pas porter et supporter la persécution. Ils ne pourront pas supporter la tristesse. Ils ne pourront pas vraiment persévérer dans leur foi. Et nous voyons que Jésus va souligner la nécessité que le Saint-Esprit vienne. Mais avant que le Saint-Esprit vienne, il faut que lui, il parte. S'il parte auprès du Père, c'est là que le Saint-Esprit viendra sur les disciples, dans la vie des disciples et dans le monde pour agir et convaincre le monde. Mais nous voyons ici que les disciples s'intéressent uniquement au pourquoi Jésus va partir plutôt que où il part. Et souvent, non seulement les disciples s'intéressent, mais pourquoi on ne reste pas ici? Pourquoi tu ne restes pas avec nous? Et chacun de nous aussi peut vraiment avoir cette intention. Quand tu es avec quelqu'un, tu as tout vécu, vous avez passé du temps ensemble et vraiment vous vous aimez réellement. Et la personne dit, voilà, je vais partir. Certainement, c'est difficile. On peut se poser la question, pourquoi? Et nous pouvons penser, lorsque Pierre, au moment de la transfiguration, quand Jésus s'est transfiguré, il y avait Moïse, il y avait Élie, il y avait Jésus, Pierre immédiatement allait vers Jésus en disant, Jésus, mais il faut qu'on reste ici, il fait beau là, je vous vois en train de discuter ensemble, c'est mieux qu'on reste là. Et là, Jésus va lui répondre de repartir et de rester dans la prière. Et là, nous voyons Pierre silencieux, étonnamment silencieux. Il ne pose pas de questions. Il est là, il écoute le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons dire peut-être que Pierre est attristé au point où il ne peut plus parler, il ne peut plus poser des questions. Mais Jésus veut les inciter à poser des questions et pas n'importe quelle question. Jésus veut amener les disciples à voir que là où il va, c'est là où le règne de Dieu est parfait. C'est là où le règne de Dieu est totalement et absolument à la gloire de Dieu. Et là, si Jésus est sur ce trône-là, dans son règne, c'est là que vraiment leur joie serait totalement complète. Le Saint-Esprit est l'esprit aussi de vérité. Il est toute la vérité. La vérité ne se trouve nulle part ailleurs. C'est Jésus lui-même la vérité, comme nous le dit Jean 14, versets 16 à 17. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce que le monde ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et sera en vous. Donc nous voyons là que non seulement l'esprit est la personne divine toute puissante, mais aussi l'esprit est l'esprit de toute la vérité. Si l'esprit de notre Seigneur est l'esprit de toute la vérité, il aime la vérité et il est lui-même la vérité. Et là, ça nous montre que en dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. Nous ne pouvons trouver aucune vérité vraiment rassurante qui est capable de nous donner, de nous transmettre cette vie qu'il nous donne en dehors de Jésus. C'est lui seul qui est la vérité et qui nous donne la vie. Le Saint-Esprit dira tout ce qu'il a entendu de Jésus dans une obéissance complète à Jésus. Comme le Fils a obéi au Père, l'Esprit se soumettra complètement au Fils, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune rivalité entre le Fils et le Saint-Esprit. Comme il n'y a aucune rivalité entre le Père et le Fils, ils sont en symbiose, en harmonie d'action. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'unité d'action avec le Père et le Fils. L'objectif principal du Saint-Esprit, c'est unir. Le Saint-Esprit ne divise jamais. Comme le Père et le Fils sont un et que le Saint-Esprit est à l'œuvre en unité d'action avec le Père et le Fils, il n'y a pas de division. Il y a une harmonisation dans leur action. Jean 15, verset 19, 20, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative d'après ce qu'il voit faire. Il ne fait que d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père a montre tout ce qu'il fait au Fils, bien sûr. » Et nous voyons ici que le Saint-Esprit est en harmonie d'action avec le Fils et le Père, comme le Père est en harmonie d'action avec le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion dans notre vie ensemble, en communauté? Si le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Si nous sommes unis à Christ, c'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il nous unit en Christ. Et si nous sommes en Église, l'œuvre du Saint-Esprit est d'une manière évidente lorsque nous sommes en harmonie dans notre action. Et là, ça montre que la prière de Jésus est vraiment une réalité qu'il veut pour nous. En Jean 17, je prie pour eux qu'ils soient un comme moi et toi nous sommes un. Si dans la Trinité il y a une unité, il y a une symbiose d'action, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de le Père vient faire ce qu'il veut, le Fils vient faire ce qu'il veut, l'Esprit vient faire ce qu'il veut, nous allons voir que la parole de Dieu même serait totalement d'une manière sans harmonie. Alors que nous voyons que la parole de Genèse à Apocalypse, il y a une harmonie. Il n'y a pas de contradiction. Tout est d'une manière harmonisée et ça témoigne et ça appuie l'unité et la véracité de la révélation de Dieu pour nous. C'est pourquoi nous pouvons dire avec certitude que la Bible, la parole de Dieu est la vérité et toute la vérité parce qu'il n'y a pas de contradiction. Que le Seigneur nous aide à travers cette première partie de comprendre la personne du Saint-Esprit, de lier une relation d'amitié avec lui, de vivre avec lui d'une manière intense, d'une manière vraie, d'une manière sincère, demander au Saint-Esprit vraiment qui nous connaît en nous, qui est en nous, qui puisse permettre que notre vie soit en symbiose, harmonie avec notre Dieu. Et s'il y a des choses dans notre vie qui ne correspondent pas à sa volonté, qu'il nous donne cette capacité, cette joie vraiment de dire, Seigneur, me voici entre tes mains. Je livre ma volonté et ma vie entre tes mains. Que le Seigneur nous permette de mettre notre confiance dans l'esprit de toute la vérité, qui connaît toute la vérité, qui aime la vérité et qui veut que nous marchons dans la vérité tous les jours, que nous puissions aussi nous dire la vérité les uns aux autres avec amour et dans la paix et dans l'harmonie. Que le Seigneur nous aide par son Saint-Esprit à être dans l'harmonie dans notre action, à être unis dans ce que nous voulons faire. Nous voulons faire quelque chose, on met les plans ensemble, on met nos idées ensemble, et on dit, on tranche et on avance ensemble. Que le Saint-Esprit nous apprenne cette réalité de l'unité ensemble. Deuxièmement, le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit inaugure le règne de Dieu. Sans la mort et la résurrection de Jésus, l'inauguration, le royaume de Dieu n'est pas inauguré. C'est-à-dire le salut que le Seigneur a préparé à l'avance n'est pas inauguré. Le règne du salut que l'Esprit va mettre en œuvre dépend totalement de la mort et de la résurrection et du siège de Jésus sur le trône de Dieu. Sans ces trois événements cruciaux, il n'y a pas d'inauguration du royaume. La nouvelle alliance n'est pas inaugurée et aussi le royaume de Dieu comme qui symbolise le salut que le Saint-Esprit va appliquer dans la vie de chacun, dans la vie, dans le monde, n'est pas inauguré. C'est pourquoi Jésus insiste en disant, c'est avantageux que je m'en aille auprès du Père. Pour cette raison, il devrait inévitablement passer par ces trois événements-là, la mort, la résurrection et son siège auprès de Dieu. Le Saint-Esprit applique le salut. Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué sa propriété pour le jour de la délivrance finale. C'est le Saint-Esprit qui applique la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit lorsque nous plaçons notre confiance au Seigneur. C'est lui qui va appliquer ce sceau pour dire « Vous appartenez dès aujourd'hui, dès maintenant à Dieu, au Seigneur Jésus. » C'est pourquoi Jésus va dire que si quelqu'un n'a pas l'esprit, c'est qu'il ne lui appartient pas. Celui qui appartient au Seigneur a logiquement le sceau du Saint-Esprit qui va lui délivrer aujourd'hui du péché et de la culpabilité, mais aussi de la délivrance finale à venir, du salut final. Le Saint-Esprit fait porter du fruit. Galates 5, 22, 23, 25 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Puisque l'Esprit est la source de votre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ici, nous voyons que l'inauguration du royaume de Dieu consiste à mettre en œuvre, que l'Esprit mette en œuvre, applique le Saint-Esprit dans la vie des croyants et ensuite permettre que les croyants que nous sommes, nous puissions porter du fruit à la gloire de Dieu. L'Esprit est la source de vie. Sans l'Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous pouvons faire des œuvres. Nous pouvons essayer de faire des œuvres humaines qui proviennent de la chair. Mais cela ne serait jamais le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit est l'amour. Tout est amour, tout est joie, tout est paix, tout est patience, tout est amabilité, tout est douceur, tout est maîtrise de soi. Tout. Et la loi ne condamne pas ces choses-là. Donc, nous voyons ici que le Saint-Esprit nous fait porter du fruit. Son rôle dans l'inauguration du règne de Dieu, c'est aussi de garantir et de nous assurer la promotion et la croissance de l'Église. Dans Actes 2, versets 37, 46 et 47, il dit « Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient favorables. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas croître comme nous pouvons le voir. L'Église primitive croissait parce qu'ils étaient en communion accord avec le Saint-Esprit et aussi entre eux. Ils étaient en accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et il les était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour dans leur communauté ce qu'il avait sauvé. Sans l'action puissante du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs, pour permettre que l'Église puisse être édifiée et accroître, c'est pas évident, c'est pas possible. Donc, les disciples voyaient que la Pentecôte, plus tard, est l'inauguration, voilà, du royaume de Dieu qui a été fait avec pompe. Le ministère, le royaume de Dieu, le Seigneur a inauguré son royaume et le ministère du Saint-Esprit le jour du Pentecôte. Il a permis à l'Esprit, voilà, de venir sur les disciples et dans la vie des disciples. Le Saint-Esprit concrétise le règne du salut dans la vie des disciples, les rendant obéissants en manifestant un style de vie qui correspondrait à celui de leur maître Jésus, d'où le nom après, plus tard, dans le chapitre 11 de Actes, on appelle les disciples les petits Christ, qui aujourd'hui est appelé chrétien. Aujourd'hui, l'Église ne peut négliger le ministère du Saint-Esprit et espérer croître, se développer, accomplir la volonté de Jésus dans la mission et dans le monde. C'est le Saint-Esprit, son ministère. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Jésus a fini son ministère terrestre, a été enlevé au ciel. Il siège auprès du Père, il intercède pour nous. Mais aujourd'hui, il a sa présence réelle est appliquée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'il a laissé avec ses disciples. C'est son ministère. Et si nous ne mettons pas le ministère du Saint-Esprit réellement dans tous les domaines de notre vie, de notre vie de foi et notre vie d'Église, c'est-à-dire nous perdons beaucoup de choses parce que le ministère du Saint-Esprit est efficace et le ministère du Saint-Esprit est réellement celui qui accomplit certainement la volonté du Seigneur. Vivre aujourd'hui notre Pentecôte. La Pentecôte s'est produite une seule fois dans l'histoire de l'Église. Il ne se répétera plus jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc nous attendons aujourd'hui simplement le retour de Jésus en chair et en os pleinement pour nous chercher. Si nous parlons de vivre la Pentecôte aujourd'hui, c'est que nous pouvons lire simplement la Pentecôte comme un événement historique. Ça s'est produit dans l'histoire, ça ne se répétera plus, et chaque année, on répète Pentecôte, on rappelle l'histoire. L'Esprit est venu à Pentecôte, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, et l'Église a commencé à croître, à avancer. Et aujourd'hui, comment nous vivons cette Pentecôte? Et c'est cette question-là que chacun de nous peut-être pourrait se poser comme question. Nous pouvons vivre notre Pentecôte aujourd'hui en ayant cette assurance de l'action de l'Esprit dans notre monde aujourd'hui. Notre monde que nous voyons aujourd'hui, que nous observons aujourd'hui, est-ce que nous sommes à rassurer que réellement le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ce monde, dans la vie peut-être des personnes qui ne sont pas nées de nouveau? Jean 8, versets 46 et 47 dit: qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si vous ne me croyez pas, celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Et là, nous voyons ici clairement que Jésus veut nous dire que c'est le Saint-Esprit qui peut produire la preuve de culpabilité. C'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. Seul le Saint-Esprit peut produire cette culpabilité-là pour que la personne se rende compte que je suis dans l'erreur, pour que la personne se rende compte que je suis dans une culpabilité et j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin du Seigneur pour me purifier et me pardonner de ce péché-là, de cette culpabilité. Assurance de l'action de l'Esprit dans notre monde aujourd'hui. Notre monde a besoin de Dieu. Même si aujourd'hui, ce n'est pas d'une manière claire pour eux, nous pouvons être assurés que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs pour produire la culpabilité, pour les amener à prendre conscience qu'ils sont séparés de Dieu, qu'ils ont abandonné Dieu et qu'ils doivent se remettre à lui pour la confession des péchés, le pardon de leurs péchés et de leur culpabilité pour la vie éternelle. Deuxièmement, être convaincu et assuré du siège du Seigneur Jésus auprès de son Père. 1 Pierre, verset 3, 21 et 22 nous dit, « Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. » Éphésiens 1, 21 dit, « Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans ce monde présent, mais aussi dans le monde à venir. » Et donc, nous voyons clairement que vivre la Pentecôte aujourd'hui, c'est être rassuré que le Christ règne aujourd'hui. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus dans ce serviteur souffrant. Qu'on charge la croix, qu'on le tape au dos, qu'on le traîne pour aller clouer. Non, Jésus règne aujourd'hui. Il a mis tout sous ses pieds. Le Seigneur lui a tout confié. Il n'est pas question que les chrétiens vivent d'une manière comme si Jésus était toujours crucifié, comme si Jésus était toujours dans le tombeau. Nous, en tant que croyants, sachant que le Seigneur est sur son trône aujourd'hui, doivent apprendre à vivre victorieusement notre foi. Même si nous traversons des souffrances aujourd'hui, je sais, nous savons une seule chose, le Christ règne, le Seigneur règne. Il est celui à qui rien n'échappe, rien n'échappe à son contrôle. Tout peut m'échapper, mais rien n'échappe à celui qui règne sur le trône de Dieu. Cette assurance de nous laisser remplir quotidiennement par l'Esprit et pour marcher selon l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit. » Galates 5, 26, « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Là, cette assurance que l'Esprit est disponible, cette assurance qu'il est là avec nous, il est là en nous. Avec nous, si nous sommes en communauté, nous vivons en communauté, il est là. Jésus est présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. En nous, parce qu'il habite en nous. Notre corps, maintenant, est le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous permet de supporter les difficultés et de traverser nos épreuves et aussi de faire confiance à notre Seigneur et de marcher dans toute la vérité et de pouvoir avoir cette possibilité d'annoncer avec assurance la parole de Dieu. Annoncer, proclamer la parole avec assurance, c'est là que le Seigneur nous donne cette possibilité. Que le Seigneur nous aide dans cette troisième partie qui est notre Pentecôte aujourd'hui à vraiment nous livrer notre volonté au Saint-Esprit. Que ça ne soit pas une lecture historique. Le Seigneur, l'Esprit est venu à Pentecôte, mais que ça soit une réalité aujourd'hui au quotidien, que nous puissions goûter la bonté de Dieu et voir comment l'Esprit, celui qui marche par l'Esprit, peut vivre et porter du fruit à la gloire de Dieu. Pour conclure, j'aimerais que nous rappeler que le Saint-Esprit est venu. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. Le Saint-Esprit est venu, il est avec nous et il est en nous. Le règne de Dieu est inauguré. Ce n'est plus une promesse, mais c'est un fait. Le Seigneur a inauguré la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Seigneur a permis que maintenant nous pouvons placer notre confiance au Seigneur et recevoir la vie éternelle. C'est une réalité aujourd'hui. Que cette réalité puisse vraiment nous conduire, nous encourager et nous donner cette possibilité de nous ouvrir davantage à notre Seigneur afin qu'il puisse nous remplir. Nous pouvons vivre notre Pentecôte aujourd'hui. Chacun individuellement peut vivre sa Pentecôte au quotidien. C'est dire, je livre ce matin ma pensée, mon être, ma volonté au Saint-Esprit. J'aimerais marcher selon ta volonté. J'aimerais accomplir les œuvres que tu as préparées déjà cette journée afin que je puisse l'accomplir à la gloire de ton nom. Que le Seigneur nous aide aussi par son esprit à surmonter nos épreuves, à voir l'unité. Je reviens dans la deuxième partie, dans le règne de Dieu, dans l'harmonie que le Père a avec le Fils et le Fils a avec l'Esprit. Que cette harmonie nous guide aujourd'hui collectivement, dans toutes nos décisions, dans la vie de notre Église, que nous voyons l'unité vraiment d'une manière claire, d'une manière visible, parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit est là pour nous unir, nous donner, nous faire aimer les uns les autres, accepter la vie des uns des autres et pouvoir avancer ensemble, vraiment et accomplir la volonté de Dieu comme il nous demande. Pour terminer, j'aimerais prier, demander au Seigneur de nous aider à revoir la Pentecôte autrement. La Pentecôte, pas comme une lecture historique, mais la Pentecôte comme quelque chose, comme un événement réel aujourd'hui, maintenant. Que le Saint-Esprit visite son Église, remplisse son Église de sa présence. Et que vraiment, il nous permette de voir d'une manière visible l'œuvre de l'Esprit en chacun de nous, dans l'harmonie et dans la paix. Prions. Seigneur Dieu de grâce et d'amour, à Pentecôte, ton Esprit a rendu visite au monde. Ton Esprit a rendu visite non pour repartir, mais pour rester. Rester avec tes disciples et rester en tes disciples, dans leur vie, dans le quotidien, face à toutes les épreuves, les difficultés qu'ils vont traverser. Oui, ils ont besoin de cette assurance. Ils ont besoin de ta présence pour faire face. Ils ont besoin de ta présence pour continuer le ministère. Oui, terrestre que Jésus a inauguré. C'est pourquoi nous voulons ce matin nous incliner devant ta présence, devant ton trône de grâce, parce que tu règnes aujourd'hui. Tu as tes pieds, tout est mis sous tes pieds et rien ne peut aller au-delà de ce que tu es et de ce que, oui, de ce que ton règne a pu mettre en place. C'est pourquoi, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs vers toi et nous voulons te demander particulièrement de remplir chacun quotidiennement de ton esprit afin que nous puissions porter du fruit à la gloire de ton nom. Que les fruits de ton esprit habitent en nous, que l'amour habite pleinement en nous, La paix habite pleinement en nous. La patience habite pleinement en nous. La bonté, l'amabilité. Oui, la joie. Que tous les fruits, le fruit de l'esprit se révèle en nous. Que les facettes de l'esprit se révèlent en nous. Lorsque nous sommes dans la détresse, Seigneur, que ta miséricorde se révèle en nous. Que ta bonté se révèle en nous. Afin que nous puissions vraiment vivre cette épreuve avec patience. Seigneur, permets que ton Église puisse travailler en harmonie, en symbiose, d'unité avec toi, avec les uns et les autres. Que, oui, Seigneur, tout ce que nous voulons mettre en œuvre, Seigneur, dans cette Église, dans ton Église, oui, que tu nous vois, Seigneur, l'exemple de la Trinité travaillant en symbiose, symbiose d'action, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que des rivalités vaines puissent prendre le dessus dans la vie de ton Église. Je prie et je te demande que vraiment nous puissions, ô Seigneur, te laisser agir, laisser ton Saint-Esprit accomplir ton œuvre dans ton Église et que, Seigneur, oui, des âmes soient sauvées, que le monde soit convaincu des péchés, des culpabilités et qu'il se confesse devant toi, oui, Seigneur, avec regret et abandonné pour venir, oui, dans tes bras. Nous nous laissons entre tes mains. Le monde est dans tes mains. Et Seigneur, tu es à l'œuvre dans le monde pour convaincre des péchés, pour permettre que, Seigneur, des âmes puissent venir à toi et que l'Église puisse continuer à te célébrer, à t'obéir et à appliquer ta volonté dans leur vie. Merci pour cette matinée, pour cette journée que tu nous donnes et merci pour ta bénédiction renouvelée, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies et dans la vie de ton Église. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.